Le 20 novembre dernier, c'était le 50e anniversaire de la mort du général Franco, une disparition qui aura marqué la fin de 36 ans de dictature et le début de la transition vers la démocratie en Espagne. Nous allons à cette occasion plonger au cœur de l'Espagne franquiste, à travers plusieurs archives et avec un historien qui sera notre fil rouge. Nous allons retracer la guerre civile dans les années 30, puis l'entrée de Franco dans Madrid en mars 1939. Sa dictature va durer jusqu'au milieu des années 70. C'est un reportage que Transversal vous avait proposé une première fois en mars 2019, quelques mois avant que le corps de Franco ne soit exhumé pour quitter le mausolée où il se trouvait, non loin de Madrid. C'était une priorité pour le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Il fallait mettre fin, dit-il, à cet hommage public au dictateur. Retour donc sur les années du franquisme avec un reportage réalisé par Eddie Kackelbergs. Il débute le 20 novembre 1975. Franco vient de s'éteindre.
Españoles, Franco ha muerto.
Novembre 1975, des sanglots dans la voix. Arias Navarro, le président du Conseil espagnol de l'époque, dernier premier ministre de Francisco Franco, caudillo d'Espagne, annonce la mort du dictateur. Celui qui a mené l'Espagne d'une main de fer et d'une foi ardente et exclusive s'est éteint après une agonie de plusieurs semaines. Applaudi par les uns, pleuré à chaudes larmes par d'autres, la figure de Francisco Franco Bahamonde hante encore l'Espagne d'aujourd'hui. Pourtant, tout commence 39 ans plus tôt, le 17 juillet 1936, par un coup d'État. Ulcéré par la victoire du Front populaire des gauches et hostile à la République depuis 1931, un quarteron de généraux rentrés du Maroc et du Sahara espagnol, avec à sa tête un général peu connu, Francisco Franco, prend le pouvoir.
18 juin 1936. Au Maroc espagnol, puis dans la péninsule ibérique, éclate un soulèvement militaire d'une ampleur considérable. Après 3 jours de combat, le gouvernement est maître de la situation à Madrid, en Catalogne, à Valence, à Bilbao. Le général Franco triomphe à Séville, le général Mola à Burgos et en Navarre. Et tout de suite, la lutte prend un caractère acharné. Une première offensive contre Madrid échoue devant San Rafael au début d'août. Mais le 14 août, Badajoz est occupé. Queipo de Llano et Mola font leur jonction. Le 4 septembre, après de violents combats, les carlistes de l'armée de Mola s'emparent d'Irun. Le 27 septembre, les nationalistes pénètrent dans Tolède et délivrent les cadets et gardes assiégés dans l'Alcazar depuis 10 semaines. Le 30 octobre, les troupes du général Franco parviennent aux portes de Madrid, mais tous leurs assauts échouent devant la résistance des miliciens gouvernementaux. Tandis que le siège de la capitale se poursuit, de violents bombardements sèment les ruines et la mort. Avec le printemps, les grandes offensives recommencent. Le 9 mars, une poussée violente des nationalistes contre Madrid en direction de Guadalajara se termine par un échec. En Biscaye, les Basques, malgré leur courageuse résistance, doivent abandonner Guernica et Durango le 28 avril. Les nationalistes pénètrent dans Bilbao le 19 juin. Le 13 juillet, les gouvernementaux lancent à leur tour une offensive sur le front de Madrid. Et la guerre continue.
Aidé militairement par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, qui envoie troupes, avions et armes, Franco laisse derrière lui un pays de plus en plus dévasté. Partout, la répression fait rage. Les républicains s'en prennent aux curés et aux moniales et aux partisans de la rébellion armée. Les fascistes, eux, les fascistes de Franco, tuent, pillent, violent, fusillent et jettent les cadavres des républicains, les rouges, los rojos, dans des fosses communes qui se referment pour des décennies sur leurs dépouilles anonymes.
presse de Madrid. Negrín et les communistes veulent résister jusqu'à la mort. Les officiers supérieurs de la République se révoltent. Franco exige la reddition sans condition, il capitule. À midi, le 27 mars 1939, les troupes rebelles du général Franco entrent dans Madrid. Pour Franco, c'est le temps du triomphe. Mussolini télégraphie.
Je vous remercie d'avoir consenti aux troupes légionnaires le haut honneur de défiler devant vous dans Madrid reconquise pour l'Espagne une, libre et grande, que vous êtes en train de construire.
Berlin, juin 1939. Hitler passe en revue la Légion Condor. Ils sont l'élite de l'armée allemande. Trois mois plus tard, ils seront à Varsovie. Un an après, à Paris.
Avec une brutalité rare, le coup d'État militaire s'était en fait transformé en guerre civile qui, de juillet 36 à avril 39, laissera l'Espagne exsangue et divisée à jamais.
Espagne, 1939. 503 061 km², presque la France. Il y a 2 millions de prisonniers, 500 000 exilés. En 3 ans, 1 million de morts violentes. Un parti unique, la Falange. Un chef unique, le Caudillo. Le 31 décembre 1939, Franco proclame...
Un Estado totalitario harmonizará en España.
Ce dont nous avons besoin, c'est d'une Espagne unie, consciente. Il est nécessaire de liquider les haines et les passions laissées par notre guerre passée. Mais cette liquidation ne doit pas être faite à la manière libérale, avec amnistie monstrueuse et funeste, qui sont une duperie plutôt qu'un geste de pardon. Elle doit être chrétienne, grâce au rachat par le travail, accompagné de repentir et de pénitence.
À partir de là, c'est le règne du caudillo d'Espagne et de ses alliés, de son mouvement fasciste, la Falange, créé par José Antonio Primo de Rivera, qui sera inhumé d'ailleurs en son temps près de Franco, dans la basilique sanctuaire du Valle de los Caídos, aujourd'hui tant contestée. L'Espagne doit de force alors entonner le chant fasciste des phalangistes « Cara al sol », face au soleil, avec ma chemise neuve, comme ici, lors des commémorations madrilènes des 20 ans de la Falange.
Más de 150 000 falangistas llegados de todos los lugares de España se concentran en el estadio de Chamartín para escuchar al generalísimo Franco y para ratificarle su lealtad y su adhesión en el 20 aniversario de la fundación de la Falange. Es impresionante esta manifestación de miles y miles de hombres con el atuendo de sus trajes civiles y la camisa azul. Los concentrados entonan el himno de la Falange y mientras duran sus vibrantes notas, se mantienen en actitud de saludo en tanto el viento acaricia los gloriosos pabellones de nuestras banderas.
Un chant écrit par Primo de Rivera lui-même et qui proclame « Ils reviendront victorieux les drapeaux au pas allègre de la paix et 5 roses seront attachées aux flèches de mon faisceau. Debout, légion, courez à la victoire, qu'une aube nouvelle se lève sur l'Espagne. » Alliés des forces de l'Axe, puis indispensable aux alliés victorieux, à raison du stratégique détroit de Gibraltar et des mouillages des flottes en Méditerranée, le vieux dictateur espagnol passe les années et choisit le jeune héritier des Bourbons d'Espagne, le prince Juan Carlos, comme successeur lors d'une cérémonie au Parlement espagnol, les Cortes.
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Persuadé que son régime se maintiendra donc au-delà de sa mort, le dictateur s'éteint en 1975, laissant une mémoire césurée et une transition politique qui, sous l'impulsion du nouveau monarque et des forces politiques démocratiques, va produire une forme d'amnistie et d'amnésie du passé qui n'ose pas son nom. Franco est enterré au Valle de los Caídos, lieu mémoriel où il a fait transférer sans consentement des familles les restes de dizaines de milliers de franquistes et de républicains et où il repose, sous la garde d'une congrégation de moines, la bénédiction d'une église d'Espagne plus que conservatrice et fidèle à son souvenir et le souvenir attentif aussi de ses aficionados toujours présents.
Estamos aquí directamente por amor a España.
Nous sommes ici par amour pour l'Espagne. Nous croyons que l'Espagne est ce qu'il y a de plus important, malgré tout ce qui nous arrive. L'Espagne est en train de s'enfoncer à cause de partis démocratiques, la gauche et ceux qui se disent de droite et qui ont collaboré à la crise qui nous affecte tant.
Francisco Franco. José Antonio Primo de Rivera.
Presente.
Caídos por Dios y por España.
Presente.
Arriba España.
Arriba.
Le gouvernement socialiste sortant avait proclamé sa volonté immédiate d'exhumer les restes de Franco de ce lieu mémoriel pour en faire un lieu de réconciliation possible et de mémoire active. Plus vite dit que fait. Malgré le vote d'une loi et un débat parlementaire houleux.
Votamos a continuación la proposición no de ley del grupo parlamentario socialista sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la ley de memoria histórica. Presentes 339, sí 198, no 1, abstenciones 140. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.
Avec nous, Ángel Viñas, qui est économiste, diplomate, professeur d'université, historien. L'Espagne est une démocratie retrouvée récente. 1975, mort de Franco. 1978, un pacte, en quelque sorte, entre partis démocratiques pour éviter le procès du passé. C'est à partir de 1982 qu'il y a une alternance politique qui s'installe. Aujourd'hui, ce fantôme de Franco, ces franquistes très assumés en plein milieu de la capitale qui manifestent violemment, d'ailleurs, à l'idée que l'on puisse déterrer Franco. Comment interprétez-vous la chose ?
Tout d'abord, c'est incroyable. Je n'y m'y attendais pas. Mais en tant qu'historien, je sais fort bien que l'Espagne n'a pas réglé ses comptes avec son passé. C'est ça la source, une des sources de tous les problèmes.
On parle beaucoup des fameuses fosses du franquisme, c'est-à-dire ces lieux d'enfouissement communs où on a jeté des corps de républicains, mais les autres répondent « il y a eu des victimes dans les deux camps ».
C'est vrai.
Ce qui est vrai. Il faut quoi ? Oublier le passé ou reparler du passé ?
Non, mais on ne peut pas oublier le passé. Le passé est toujours là, en quelque sorte. Non, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Nous, les historiens, nous avons fait notre boulot. Depuis la mort de Franco, même quelques années auparavant, on avait commencé à travailler sur notre histoire. Notre histoire, j'entends par là les années de la République, les années de la guerre civile et les années de Franco lui-même. On a éliminé la censure en 1977. Et alors on a pu publier, on a écrit énormément. Les archives, peu à peu, ont été ouvertes. On a fait des recherches continues jusqu'au point que tout ce qu'on pourrait dire sur la République 1931-1939, la guerre civile ou le franquisme a été déjà dit quelque part, par quelqu'un. Le travail des historiens maintenant a changé. C'est de voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Il faut maintenant séparer le grain du livret. Nos résultats, en général, même s'il y a des différences entre nous ou parmi nous, bien sûr, n'a pas été répercuté dans la société.
Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas enseigné ?
Parce qu'on n'a pas enseigné. Moi, je dois dire tout franchement qu'un des problèmes les plus dramatiques, un échec total de l'État espagnol. On n'a pas enseigné aux nouvelles générations ce qu'on a appris sur notre passé.
Est-ce que le problème originel ne réside pas dans ce que j'ai appelé le pacte pour la démocratie ou le pacte pour l'oubli du passé? Je vous ai vu tiquer sur l'idée que je l'appelais comme ça. Est-ce que le problème n'est pas là, c'est-à-dire avec Adolfo Suárez, à un certain moment, dire « on ne reviendra pas sur le passé ».
Non, non, non. Ce qu'on a fait, c'est promulguer une loi d'amnistie avant même la Constitution. Le passé était passé. Et il fallait construire, il fallait bâtir un nouveau système démocratique, homologable, comparable au système démocratique en vigueur en Europe occidentale, en vue de nous incorporer à l'Europe démocratique. Et c'est ça ce qu'on a fait. Le passé, on ne le connaissait pas. Enfin, on connaissait qu'il y avait eu une guerre, évidemment, hein, que la dictature n'avait pas été bon enfant, évidemment. Mais l'histoire qu'on enseignait, que j'ai apprise lorsque j'étais étudiant dans l'école secondaire, pas à l'université, c'était une histoire défigurée, déformée, fausse, à la majeure gloire des vainqueurs dans la guerre civile, qui ont eu un besoin écrasant depuis le premier moment de justifier leur révolte, leur rébellion et leur victoire. À ce moment-là, on ne savait pas très bien une chose qui nous hante depuis toujours, enfin depuis 20 ans, c'est les victimes. Les victimes. On savait que la guerre n'avait pas été facile, mais on ne savait pas beaucoup. On l'ignorait. Enfin,
on ne voulait pas le savoir.
Pendant la dictature, il était impossible. Il y avait une mémoire collective parmi les vaincus, bien sûr, mais qui ne s'étalait pas sur des documents ou sur des évidences. Alors on a commencé à fouiller là-dessus aux années 80 du dernier siècle. Deux ou trois universités en Andalousie, qui a été une région très malmenée.
La région de García Lorca.
Oui, tout à fait.
Entre autres.
García Lorca, entre autres, on connaissait.
Très emblématique.
Emblématique, mais ce n'était pas García Lorca seulement. Il y avait des milliers, des milliers. Et alors, en fin de siècle, au début du siècle présent, qu'on a commencé à fouiller, on a ouvert des fosses qu'on ne connaissait pas.
Quasiment dans tous les petits villages, il y en a.
Dans tous les petits villages, il y a eu des drames. Alors les gens ont commencé à parler. Cela a pris de l'ampleur, mais ça a pris de l'ampleur il y a une vingtaine d'années. Enfin, en face de cela, de ce petit mouvement social pour récupérer la mémoire. Nous avions alors à ce moment-là un gouvernement de droite sous M. Aznar. On a commencé par dire ça c'est faux, les vaincus veulent la revanche. On a commencé à publier des choses contradictoires, de saupoudrer des mensonges l'éducation primaire. Et ça, naturellement, a eu des répercussions. Il y a le mouvement social a pris de l'ampleur.
Au point quand même, Ángel Viñas, que M. Aznar, Premier ministre, alors président du Conseil espagnol, honore la mémoire des anciens tombés dans la brigade Azul sur le front de l'Est, qui sont effectivement engagés aux côtés des nazis. Et cela, la mémoire est officiellement honorée, alors que l'on refuse, au même moment, la restitution des corps des républicains tombés. Et aujourd'hui, la question se pose encore sur les milliers de républicains dont on a volé les corps pour les enfouir dans le Valle de los Caídos sans les répertorier.
Pas seulement dans le Valle de los Caídos, mais aussi dans des fosses qui n'ont pas été encore ouvertes. On a fait des estimations, comme quoi peut-être 100 000, 110 000 personnes seraient toujours dans des fosses inconnues ou pas ouvertes. C'est quand même c'est une quantité considérable. Hein, considérable.
D'autant, Ángel Viñas, qu'un certain nombre de dignitaires du franquisme des dernières années, et je songe évidemment en particulier à celui qui a été très longtemps le président de la Galice, et qui était Fraga Iribarne, qui était le dernier responsable de la communication du dernier gouvernement franquiste, a constitué le Partido Popular.
Oui.
Mais quand on dit aux gens de la droite espagnole aujourd'hui qu'ils sont héritiers du franquisme, certains n'assument pas, mais c'est un fait.
Mais c'est un fait, évidemment c'est un fait. On ne peut pas les dénier.
Et ce parti n'a pas encore fait non plus ce travail de mémoire ou d'examen de conscience.
Non, non. C'est un fait. C'est un fait.
Et des nostalgiques du fascisme, il y en a qui s'expriment clairement à visage découvert au mausolée de la vallée de Los Caídos ou sur la Plaza de Oriente, la place d'Orient, en plein cœur de Madrid, face au Palais Royal et au balcon où Franco a fait son dernier discours. Ils y crient leur colère d'avoir été, selon eux, trahis par la gauche espagnole actuelle qui veut rouvrir la voie de la mémoire. Et se distancie aussi de la famille royale régnante en lui préférant l'autre héritier, Luis Alfonso de Bourbon, qu'il considère comme le roi légitime, celui qui n'aurait pas trahi la cause de l'Espagne franquiste et catholique. Membre de la branche aînée de la maison de Bourbon, Luis Alfonso de Bourbon, Louis Alphonse de Bourbon, avec son épouse Carmen Martínez Bordiú, duchesse de Franco et grande d'Espagne, qui est la petite-fille de Francisco Franco lui-même. Louis de Bourbon est aussi le prétendant légitimiste au trône de France, appelé Louis XX par ses partisans.
Don Alfonso, usted nuestro rey.
Franco, 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 Franco,
Franco.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on a expliqué, nous historiens, nous avons expliqué partout ce qu'il faut faire. Tout d'abord, changer les contenus des programmes éducatifs qui sont enseignés à l'école. Créer pas une histoire officielle, mais une histoire scientifique qui soit basée sur des faits. Ça, on ne l'a pas fait. On commence très lentement à le faire. Il faut dire aussi que l'éducation en Espagne, c'est une affaire de régions autonomes. Même si le ministère de l'Éducation nationale ou de l'Éducation a la main haute sur les programmes, les régions autonomes ont un peu de flexibilité pour adapter leurs programmes. Et puis, ça, ce n'est plus du ressort de l'historien, prendre des mesures politiques comme l'exhumation du général Franco. La résignification du monument qu'il avait fait ériger à sa mémoire ou à la mémoire des vainqueurs.
Y compris enfin, avec José Primo de Rivera, José Antonio, de Rivera. Le fondateur
mais
des Falanges.
Vous savez une chose, Primo de Rivera était un fasciste. Personne ne le discute, sauf les fascistes ou les héritiers du fascisme, qui normalement, s'il n'y avait pas eu de guerre civile, serait à pied de page dans l'histoire espagnole. Primo de Rivera a été élevé au sanctuaire de la rébellion parce que Franco n'avait pas de doctrine, sauf la doctrine ancienne, catholique, nationaliste, centraliste,
caudilliste.
Avec ça, dans les années 30, on ne faisait pas la guerre. On ne faisait pas la guerre. D'autant plus que Franco avait été aidé par les puissances fascistes. C'est un peu mon territoire de recherche.
On rappelle qu'à Guernica, par exemple, ce sont des avions italiens, allemands,
bombardent. Sans les puissances de l'Axe, Franco n'aurait pas pu gagner la guerre. Donc, il avait besoin d'une doctrine qui puisse être semblable à celle de ce régime-là. Et là, le falangisme, le fascisme espagnol, qui s'est développé, qui a été fait dans la guerre même, c'est un cas tout à fait extraordinaire. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne nazie, ce n'est pas le cas de l'Italie, ce n'est pas le cas d'autres pays où il y a eu des mouvements fascistes, comme ici en Belgique. Enfin, le fascisme, ce n'était pas quelque chose de national, il y avait des mouvements fascistes un peu partout en Europe, même en dehors de l'Europe. Mais Franco a eu besoin de cette doctrine qui a été la doctrine dominante jusqu'en 1945, plus ou moins. Après, il a joué parmi les différents secteurs qui ont constitué l'appui de son régime. L'armée, enfin les forces armées et de sécurité, tout d'abord. L'Église catholique, n'oublions pas ça, l'Église catholique. Et l'élément fasciste, qui a été mis un peu à l'écart, mais pas tout à fait.
Aujourd'hui, André Vignes, on voit donc, je le rappelais, ces manifestations très assumées des franquistes, le bras tendu, au Valle de los Caídos, en plein milieu de Madrid, très violentes. On voit Vox, rentrer au Parlement d'Andalousie. Est-ce que cela a à voir avec ces mémoires historiques césurées ou avec la situation économique à nouveau difficile ?
C'est vrai que cela a aussi quelque chose à voir, mais n'oubliez pas que l'Espagne est une démocratie et tous les sentiments, s'ils ne vont pas contre la Constitution et les lois, sont admis. La liberté d'expression est presque totale. Bien sûr, le code pénal a été aménagé à plusieurs reprises. On a incorporé, par exemple, un article qui prévoit des délits pour le négationnisme de l'Holocauste. En Espagne, il y a eu un Holocauste, mais pas contre les Juifs, contre la gauche, les gauches plutôt, los rojos. Mais bon, on ne peut pas empêcher des manifestations pro-Franco, ce n'est pas interdit. C'est difficile à croire, mais il ne faut pas oublier une chose. En Italie, en Allemagne, même si je dirais ici en Belgique, même si je ne connais pas très bien l'histoire de la Belgique, le sentiment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale était qu'il faut reconstruire, bâtir un régime politique sur une base antifasciste, d'une façon ou d'une autre. En Espagne, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Parce que Franco est mort dans son lit. Je ne dirais pas en paix, mais il est mort dans son lit. Et il a fallu, on oublie maintenant, que ce que nous appelons la transition démocratique a été faite. C'est une transition, je ne dirais pas modélique, mais bon, quand même, une transition vers la démocratie sous l'ombre de baïonnettes. Sous l'ombre des baïonnettes.
On se souvient que le 23 février 1981,
oui,
il y a encore eu le risque.
Et encore, aujourd'hui même, on voit des hauts gradés des forces armées à la retraite qui demandent « Comment fait-on ça avec Franco, la mémoire de Franco, du généralissime, du sauveur de l'Espagne ?» Ils ne disaient rien, bien sûr, tant qu'ils étaient dans les forces armées. Mais maintenant qu'ils sont à la retraite, personne ne peut les empêcher d'exprimer leurs sentiments. Donc, l'Espagne n'a pas, la transition espagnole n'a pas été faite sur la base de l'antifascisme.
Mais qui est en fait Francisco Franco Bahamonde ? Francisco Franco, troisième d'une famille de cinq enfants, né le 4 décembre 1892 à El Ferrol, un port de Galice. Véritable ghetto, la ville est un milieu fortement marqué par la tradition militaire et le dévouement à l'État, où la famille Franco, qui appartient à la moyenne bourgeoisie, vit depuis sept générations. Son père, Don Nicolas Franco Salgado Arojo, est intendant général de la marine. Coureur de jupons, buveur notoire, d'humeur caustique, passant ses soirées au casino et au café, il n'est pas à l'aise dans le milieu très conservateur du Ferrol. La mère de Francisco, Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade, est elle une femme très pieuse. Après une expérience militaire au Maroc, puis aux Asturies, où Francisco Franco réprime les grèves ouvrières, il gagne du galon. Le 13 septembre 1923, Miguel Primo de Rivera, le père du futur fondateur des Falanges, instaure, à la demande du roi, un régime dictatorial par un coup d'État. Face aux difficultés rencontrées au Maroc, Primo de Rivera songe à un retrait. Pendant les mois de novembre et décembre 1924, Franco doit effectivement superviser l'évacuation de Tanger. Sa bonne conduite le fait alors nommer colonel. Peu après, le chef rebelle marocain Abdelkrim s'attaque à des populations françaises. En réponse, la France s'allie à l'Espagne. Primo de Rivera approuve un plan de débarquement à Al-Oseima. C'est un succès. Franco est élevé alors au rang de général de brigade en février 1926, ce qui fait de lui le plus jeune général d'Europe. Il n'a alors que 34 ans. En 1928, patron de la nouvelle Académie militaire d'Espagne, il devient officier de la Légion d'honneur française. Deux ans plus tard, il est même élevé au grade de commandeur et le ministre de la guerre français André Maginot se déplace à Madrid pour lui remettre l'insigne en personne. En juillet 1931, la Seconde République espagnole supprime par décret l'école militaire. Comme l'ensemble du corps enseignant, Franco est alors placé en disponibilité forcée et surveillé. Pour lui, qui s'était totalement impliqué dans la création de l'Académie, c'est un mauvais coup qu'il prend très mal. Sa haine de la République commence là. Écoutez ce portrait de Francisco Franco, recueilli 5 ans avant sa mort, en 1970 donc, auprès de l'historien Max Gallo, qui venait alors de publier 2 tomes sous le Cordillon.
Chez Franco, et c'est important dans le portrait psychologique de l'homme, il y a la conviction qu'il est l'unique, le sauveur, la clé de voûte, et je dirais qu'il ne s'engage d'abord qu'au moment où il est sûr de gagner, ça c'est un premier point, mais c'est commun à beaucoup de politiques, mais qu'il ne s'engage aussi qu'au moment où il est sûr d'être le premier. Et si vous voulez, quand la guerre civile commence, quand le pronunciamento se produit le 17 juillet 1936, Franco n'est pas la cheville ouvrière du complot qui prépare l'assaut contre la République, mais en fait, il est celui sans lequel le complot ne peut qu'échouer. C'est-à-dire que si l'on veut que l'armée réussisse à vaincre la République, il faut que Franco soit dans le complot. Et donc, sous-entendu, je dirais, Franco sera véritablement le vainqueur dans cette conjuration. Et pourquoi faut-il que Franco soit vraiment dans le complot ? Parce qu'il est en fait la conscience de l'armée. Il a été véritablement aux côtés du ministre de la guerre, le chef d'état-major de l'armée espagnole, c'est le plus jeune général espagnol, c'est-à-dire c'est celui qui va faire basculer dans le camp de la conjuration toute l'armée hésitante. Il symbolise l'armée. Donc, si vous voulez, dès lors qu'il s'engage aux côtés des conjurés, il ne peut qu'être le premier. Et il ne s'engage qu'à la condition de pouvoir être le premier. Et il sait d'ailleurs qu'il ne peut qu'être celui-là. C'est une volonté politique, disons que c'est la volonté de conserver le pouvoir et le pouvoir personnel. Et ça, c'est une volonté politique. Et ce qui caractérise Franco du point de vue de ce qu'on peut appeler son génie politique, car je ne crois pas qu'il soit, comme on l'a dit, un psychopathe, un instrument, ou qu'on puisse le définir en criant simplement « Franco-assassin ». Ça, ce sont des qualificatifs moraux ou qui relèvent de la condamnation. Ils peuvent être utiles, ils peuvent être justes, mais disons que quand on examine le personnage en tant que chef d'État et homme d'État, on est bien obligé de constater qu'il y a une grande habileté politique chez Franco. Cette habileté politique, elle a donc pour but de lui permettre de rester au pouvoir. C'est-à-dire qu'il est toujours capable de comprendre à temps ceux qui, dans son entourage, représentent les forces qui sont nécessaires pour qu'il continue à être au pouvoir. Si je prends un exemple à propos de l'Opus Dei, ou bien de la Falange, Franco a joué avec ces deux forces. La Falange, c'est l'aile qui est la plus fascisante du franquisme. Bien, Franco s'est appuyé sur cette Falange. Et puis, à un moment donné, des hommes nouveaux sont arrivés qui voulaient rester dans le cadre du régime tout en apportant un nouveau visage à ce régime, ce qu'on pourrait appeler le néo-franquisme. Et Franco ne s'est pas du tout ankylosé dans une fidélité à son passé ou à la Falange. Il a parfaitement compris dès 1956-57 que l'avenir de son pouvoir personnel passait pour lui par le fait de devoir confier aux hommes de l'Opus Dei, aux technocrates en somme, une part du pouvoir. Il sait donc voir, et c'est une des grandes qualités de l'homme politique. Et il y a une autre qualité, et là encore, je ne porte aucun jugement moral, mais je regarde simplement comment fonctionne le pouvoir franquiste et comment Franco a joué de ce fonctionnement. Eh bien, l'autre qualité, c'est de conserver, de tenir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pour conviction profonde, est-ce vrai ou faux, l'avenir le dira, mais en tout cas, cela lui a servi pendant près de 35 ans, qui a pour conviction profonde qu'il ne faut rien lâcher sous la pression. C'est-à-dire que ce qui fait, selon lui, c'est évident, il ne l'a jamais dit, mais ça apparaît dans toute son action politique, ce qui fait, selon lui, la force d'un pouvoir politique, c'est d'abord qu'il veut être fort, qu'il veut durer, qu'il ne lâche rien. Un pouvoir politique est fort parce qu'il décide d'être fort. C'est-à-dire que s'il y a une opinion publique qui exige une amnistie, eh bien Franco, même s'il envisage dans les 15 ans à venir une amnistie, par exemple, Franco est celui qui ne lâchera pas au moment où on exige de lui cette amnistie. Parce qu'il estime que, je crois, enfin c'est apparent autour de, dans sa politique, il estime qu'un pouvoir qui commence à s'effriter de lui-même, qui lâche les rênes en somme, est un pouvoir qui va à sa perte. Et je crois que ces deux aspects de sa politique, d'une part, voir l'avenir d'une certaine façon pour conserver son pouvoir, et d'autre part, conserver, définissent assez l'homme et ses capacités d'homme politique. Au moment de la croisade, enfin, c'est-à-dire de la guerre civile, il s'agissait, théoriquement, de redonner à l'Espagne sa place de puissance impériale, véritablement, bref, de rendre à l'hispanité toute sa gloire. Et l'armée, donc Franco qui l'incarne, sont les défenseurs de l'hispanité. Ensuite, si on prend même la politique extérieure, la revendication par exemple à l'égard de Gibraltar, ou bien même la politique culturelle à l'égard des pays de langue espagnole, tout cela, on a joué de l'hispanité. Je vais vous prendre un exemple précis. Quand en 1945 et puis en 1946, l'ONU naissante condamne l'Espagne au nom des droits de l'homme, Franco organise une très grande manifestation populaire qui réagit contre l'ONU au nom de l'indépendance de l'Espagne, au nom de l'hispanité précisément.
Un peu partout dans l'espace européen et extra-européen, l'extrême droite et la droite illibérale, comme on dit maintenant, prend le dessus du pavé. La mémoire des fascismes en Hongrie, mais aussi en Croatie, mais aussi Italie, mais aussi en France et ailleurs est réévoquée. Est-ce que vous craignez une revanche, serais-je tenté de dire, fasciste en Espagne?
Moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas ça parce que... Je ne le crois pas, mais je n'ai pas d'assurance. Je suis un historien. Mon champ d'étude est le passé, pas le futur. Pas le futur. Ça, on peut avoir des idées personnelles, mes idées personnelles ne comptent pour rien. Ce qui compte, c'est mon travail scientifique.
Mais la crise de la démocratie, est-ce qu'elle pourrait à nouveau engendrer quelque chose de cet ordre-là?
Mais la crise de la démocratie a toujours engendré des problèmes politiques, sociaux majeurs. On l'a vu dans les années 30, on l'a vu au 19e siècle. Une politique économique comme appliquée par l'Union européenne n'a pas fait le bonheur de tout le monde. Ici en Belgique, on le constate, dans d'autres pays aussi. Pourquoi on a fait cette politique? Ça, c'est une autre chose. J'ai mes idées, mais ce sont mes idées. Je connais la Commission européenne, j'y ai travaillé pendant 20 ans. Mais bon, c'est aussi des théories qui, pour quelques-uns, sont surannées, pour d'autres, sont toujours raisonnables. Le pouvoir économique, l'écrasant pouvoir allemand, par exemple, et des États de l'Europe du Nord. Si vous savez des gouvernements de droite dans l'Union européenne fera des politiques de droite. Si vous savez, comme on l'a vu dans le passé, en quelques années, un mélange de gouvernements sociaux démocrates et de droite, du centre-droit, bon, alors on fait d'autres politiques. Et si on a des gouvernements de droite, comme nous en avons eu pendant la période Aznar et Rajoy, qui a été absolument écrasant, déplorable à tous les égards, ben, on fait d'autres politiques. Enfin, le fascisme tel qu'il a été considéré comme un phénomène historique, c'est difficile qu'il se répète. Il peut prendre d'autres formes. Oh, quelque chose de similaire au fascisme, mais je ne voudrais pas spéculer là-dessus.
Dans cette Europe qui donc a glissé à droite, voire plus, en tout cas dans l'Europe centrale et dans un certain nombre de pays comme l'Autriche, la Hongrie, la Pologne et l'Italie même, est-ce que dans cette Europe-là, le travail de mémoire historique va pouvoir s'accomplir?
Bon, il s'accomplit. Par exemple, c'est accompli d'une façon que je voudrais dire paradigmatique en Allemagne. Bien sûr, la récupération de la mémoire anti-nazi en Allemagne n'a pas commencé en 1946, 47, 1950. Il a fallu attendre une vingtaine d'années. J'ai commencé mes études en Allemagne à l'université en 1959, 60, 62, 63. Je me rappelle, et c'est ma mémoire personnelle, mais c'est vrai que même avec la poussée américaine, britannique et française pour la dénazification, les Allemands ont commencé à prendre conscience de ce qui s'est passé dans les années 60. À la fin des années 60, ils l'ont fait d'une façon admirable, je pense admirable. En Allemagne, l'éducation ne fait pas de faux semblants en ce qui concerne le passé nazi. Voilà maintenant qu'ils reviennent. Alternative für Deutschland. Moi, c'est très préoccupant parce qu'on a fait tous les efforts sur le plan scolaire, sur l'éducation antifasciste possible. Bien sûr, Alternative für Deutschland semble être plus ancrée dans l'Est, où il y avait une dictature communiste. Donc, ils n'ont pas été socialisés dans la démocratie. Mais tout de même, c'est préoccupant. En Italie, l'Italie, c'est pareil que j'ai connu aussi un peu. La République italienne, en 1948, a été créée sur la base de l'antifascisme militant. Et qu'en restait-il? Bien sûr, je crois qu'en Italie, c'est plutôt la crise, l'inopérativité du régime politique. Le régime politique italien est franchement très lourd et n'est pas agile. Donc, l'Espagne, vous me permettrez que je dise la palissade, ce n'est pas un cas étrange. Ce qui est étrange en Espagne, c'est cette revendication de Franco, comme si rien n'était. Bon, franchement, ça, même en Italie, on ne dit pas ça de Mussolini. On ne dit pas ça de Mussolini. Pas encore, hein? Pas encore. Peut-être dans le futur, mais pas encore. On garde un peu de distance. Mais il faut dire aussi que la société espagnole est divisée. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de franquistes, mais il y a beaucoup d'antifranquistes. Et alors, pour moi, en tant qu'historien, je souhaite deux choses. Tout d'abord, l'ouverture des archives. Il y en a beaucoup qui ont été ouvertes. Mais les archives vitales pour la compréhension de la répression, c'est-à-dire les archives militaires, les archives de la Guardia Civile, les archives du ministère de la Justice et les archives du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas encore tout à fait ouvert. Et lorsque la ministre de la Défense a fait, il y a quelques mois, une déclaration avisante, on va ouvrir jusqu'à l'année 1968 toutes les archives de la Défense. C'était une déclaration tout à fait banale, parce qu'elle restait fermée. Elle restait fermée. Et puis l'autre chose, il faut que la société espagnole, le gouvernement espagnol, prenne sérieusement la question de l'éducation scolaire espagnole. Pas dans une histoire partisane, mais mon Dieu, est-ce qu'on sait les faits, on connaît les faits, on peut les interpréter, mais on ne peut pas les interpréter de 33 façons différentes. Je suis convaincu, absolument convaincu, que l'histoire, le futur, ne donnera pas raison aux résidus du franquisme. Déjà, je ne les qualifie que de résidus qui peuvent avoir une portée politique. Mais sur le plan historique, c'est impossible, c'est impossible. Il y a des faits qu'on ne peut pas nier. Je vous en donne un exemple. Le dogme fondamental de la dictature franquiste et des franquistes aujourd'hui a toujours été l'affirmation qu'il fallait se soulever contre la République parce que la République était un régime d'horreur, ce qui n'est pas le cas. Et qu'il fallait se soulever en plus parce que la République, les gauches dans la République, allaient se soulever elles-mêmes pour instaurer un régime communiste en Espagne. Ceci est tout à fait faux. On continue à le répéter, mais c'est tout à fait faux. Bon, j'ai passé l'année dernière dans les archives italiennes et espagnoles pour voir ce qu'il y a pour démontrer que c'est tout à fait faux, que le vrai, c'est le contraire. C'était les monarchistes espagnols qui avaient appelé Mussolini à l'aide, à la rescousse, depuis l'année 1932. Et à mesure que l'évolution politique s'est crispée parce qu'il fallait qu'elle se crispe. Ils sont demandés de l'aide à Mussolini qui a été octroyée, donnée avant le soulèvement militaire. Avant le soulèvement militaire. C'est clair. Les documents italiens sont très clairs. Il faut le chercher, bien sûr. Une nouvelle biographie de Ciano, le ministre des Affaires étrangères, a été publiée en Italie.
Le gendre de Mussolini.
Par un historien italien. Et il continue à répéter, bon, non, Mussolini s'est décidé à intervenir à la fin, une fois que... Mais c'est faux. C'est faux. Vous allez à la Farnesina, vous allez aux archives militaires italiennes qui sont ouvertes depuis des années. Et vous trouvez des contrats, des appuis, des programmes, pour ainsi dire, des gens pour expliquer pourquoi ils vont se soulever et pour demander, continuer à demander l'aide italienne. J'ai déjà dit quelque chose il y a 4 ans là-dessus, mais maintenant j'ai fait tout le background. Bon, on verra. Je suis sûr de mes faits. Je les documente.
Un gouvernement de gauche, à l'heure actuelle en Espagne, pourrait aider à faire émerger cette mémoire ou est-ce qu'on va l'accuser d'office de la trafiquer?
On le critique d'office. Tout d'abord, on ne sait pas combien le gouvernement de gauche socialiste va durer. Pour l'histoire, il serait bon qu'il tienne, pourvu qu'on ouvre les archives. Parce qu'une fois que vous explorez un domaine et que vous mettez vos données sur la table, il y a toujours des gens qui n'y croient pas. Il faut expliquer. Il faut expliquer ces évidences. J'en suis sûr. Enfin, je ne le verrai pas probablement, mais j'en suis sûr que l'histoire ne donnera pas la raison aux historiens franquistes, aux journalistes franquistes, aux mythomanes franquistes du tout.
L'appareil franquiste existe encore?
Bon, il y a un appareil qui est en quelque part dans des partis de la droite. Oui, c'est eux qui manifestent. C'est eux qui ont toujours fait opposition, obstacle aux lois de mémoire historique.
Est-ce que ce sont des effets de génération? En clair, est-ce que ce sont des nostalgiques âgés? Moi, j'ai aussi vu des jeunes.
Non, des nostalgiques âgés, ils passent, bien sûr. Ce sont leurs enfants, leurs petits-fils. Et puis, des gens qui simplement ne s'intéressent pas à la reconnaissance ou à la connaissance critique du passé, et qui font du tapage contre le gouvernement de gauche ou contre la gauche. Et l'Espagne reste divisée. Elle a toujours été divisée depuis 1931.
Et l'affaire catalane n'est pas...
L'affaire catalane n'est pas à mesure d'apaiser les âmes, bien sûr. Mais le problème catalan est une chose complètement différente. Lorsque les indépendantistes catalans accusent le régime espagnol d'être un régime fasciste, ça c'est ridicule. Ça c'est absolument ridicule. Le régime espagnol est un régime comme presque tout le régime, où il est une droite ou une gauche, mais bon, ce n'est pas un régime fasciste.
Vous imaginez qu'il y ait un nouveau mausolée de Franco, parce que la famille accepte finalement que l'on déterre Franco?
C'est une autre chose. Et là, il faut être très clair, moi je suis très clair, je ne connais pas bien sûr ce que le gouvernement a pensé, ou est en train de dire, ou est en train de faire, mais ce que le gouvernement a fait depuis qu'il est parvenu au pouvoir, on va exhumer Franco. Ça a été une annonce qui a eu une retombée considérable partout dans le monde, mais il me semble qu'il n'y avait pas pensé comment le faire. Parce que ce qui est normal dans un gouvernement qui survient comme ça, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour que le Parti socialiste vienne au pouvoir, hein. Il a fallu une association contre nature, pour ainsi dire, pour faire sortir M. Rajoy et le PP, le Parti populaire. Et qu'il n'y avait pas pensé très bien aux obstacles. Obstacles de type administratif, politique, familial, social. Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne peut pas aller au mausolée exhumer Franco. Il faut suivre toute une procédure administrative. Il faut avoir le consentement de l'Église catholique. Bon, l'Église catholique a sa propre mémoire historique. Il ne faut pas oublier, et je ne l'oublie jamais, que pendant la guerre civile, on a assassiné presque 8 000 religieux et religieuses. Il ne faut pas oublier ça. Parfois, la gauche l'oublie. Mais l'Église catholique ne l'oublie pas. L'Église catholique a été un des supports les plus importants de la dictature. Ça, elle ne l'oublie pas. Nous ne l'oublions pas non plus. Mais elle a toujours une force considérable en Espagne. C'est vrai que Franco est enterré dans une sorte d'église basilique qui dépend d'un ordre bénédictin, qui dépend d'un prieur en France et sur lequel le Saint-Siège n'a pas la main haute directement. Mais ça, on aurait dû le savoir. Et que l'ordre bénédictin a été très contre. Bon. Puis, la famille. On avait pensé, bon, on exhume Franco, on le met à côté de sa femme, dans un cimetière où il y a beaucoup de hautes personnalités de la dictature. Il est bien là, avec tous les honneurs. La famille dit non. Nous avons acheté 3 cryptes dans la cathédrale de Madrid. Et maintenant, on est en train d'étudier comment on peut passer outre aux objections de la famille et de l'Église. Bon, je ne sais pas si l'Église catholique va encore perdre des adeptes en Espagne à cause de cela. Mais si le gouvernement n'exhume pas Franco, il va perdre beaucoup de voix aux prochaines élections. C'est une affaire politique.
C'est l'affaire symbolique et politique par excellence.
Oui, c'est l'affaire symbolique et politique. Et ça, c'est une affaire importante. Bien sûr, il y a des gens qui disent « Non, ça n'a aucune importance ». Moi, peut-être en tant qu'historien, j'habite plutôt dans les années 30 et 40 que dans l'actualité. Bon, il me semble qu'il va prendre un sacré coup d'oreille si jamais il n'exhume pas Franco. Mais je crois que ça va se faire. Je pense que cela devra se faire. Ça, c'est mon opinion personnelle et, si vous voulez, politique et idéologique. Je ne la cache pas. Il faut exhumer Franco. Il faut absolument exhumer Franco. Il faut faire un geste symbolique, politique, qu'il faut trancher avec le passé. Mais ça, c'est le premier pas. Pour moi, le pas fondamental, c'est éducation, éducation, éducation et ouverture d'archives. Sans cela, dans 50 ans, on serait probablement dans la même situation.
Ángel Viñas, économiste, historien, spécialiste du franquisme. Notre fil rouge donc à travers ce reportage réalisé par Eddie Kakelbergs et diffusé une première fois dans Transversal en mars 2019. C'était avant donc l'exhumation de Franco en octobre 2019. Ses restes ont quitté le mausolée où il se trouvait depuis son décès il y a 50 ans, le 20 novembre 1975. C'était la volonté du premier ministre socialiste Pedro Sánchez. Les restes de Francisco Franco se trouvent désormais dans un cimetière d'un district de Madrid, aux côtés de son épouse et de personnalités liées au franquisme.